Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode spécial Saint-Sylvestre, jour de l'an, fête. Hein, mm-hmm. Fête joie.
Beaucoup de joie, oui.
Beaucoup de joie. Avec moi, Alice Bégon, bonjour Alice.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, toujours quand je suis avec vous.
Arnaud de Casse, bonjour.
Bonjour.
On est à côté, on est côte à côte.
Right.
On n'est pas séparés par Skype. Du coup, je t'ai volé Arnaud.
Totalement.
Alice.
Oui, ce qui fait que, donc, je tiens à le dire, Arnaud a régressé d'un point de vue vestimentaire. Hein. On avait fait des gros efforts jusqu'à maintenant. Et donc, ce matin, j'ai reçu une photo du pyjama d'Arnaud qui est, bon, bah. On pourrait en faire un podcast entièrement là-dessus. Et là, maintenant, il a décidé de remettre un t-shirt. Donc, c'est un t-shirt rouge. Jusque-là, tout va bien. C'est gentiment moche, mais ça va. Et je sais pas pourquoi. Ils ont décidé de répondre à cette mode qu'on a eue pendant les années 90 de, vous savez, mettre les t-shirts par-dessus des t-shirts à manches longues. Sauf que d'habitude, on faisait deux couches. Mais eux, ça coûtait trop cher. Ils ont carrément coupé. Ils ont juste cousu la manche pour faire l'effet manche longue souple. Tu vois. Aberrant.
Aujourd'hui, ben, ça va être le nanar mm-hmm. incroyable. Qui est The Room, un film de 2003 réalisé par Tommy Wiseau, écrit par Tommy Wiseau,
produit par Tommy Wiseau,
avec Tommy Wiseau, mais aussi Juliette Daniel et Greg Sestero, qui est, je découvre en même temps que toi, l'affiche hallucinée, drame, donc même pas drame romantique ou comédie, non, c'est un drame, clairement. Le synopsis le plus court du monde, j'adore. Follement amoureux de sa fiancée Lisa, Johnny ne réalise pas qu'elle est malheureuse. Trois petits points. C'est génial.
Petit. C'est bien fait d'ailleurs. Moi je suis d'accord avec ça.
En fait, je pense que c'est le synopsis le plus décent pour ce film.
I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi Mark.
Oh, hey Johnny, what's up?
I have a problem with Lisa. She said that I hit her.
What? Well, did you?
No, it's not true. Don't even ask.
Est-ce que vous voulez me dire comment et quand vous avez vu pour la première fois The Room, Arnaud?
Ben moi la première fois, ben, je me souviens c'était moi qui l'avais fait découvrir à notre groupe d'amis à l'époque. En fait c'était en 2007, il y a le DVD de The Room qui venait de sortir et j'avais vu sur internet un article sur le film et l'article s'appelait l'histoire du nouveau Rocky Horror Picture Show. Et il parlait en fait de comment un culte s'était organisé autour du film, que le film était considéré comme le pire film de l'histoire de l'humanité. Et on était à une époque où on regardait énormément de nanars. On venait de voir Turkish Star Wars, Whitefire, tous les gros classiques du nanar comme ça. Et je me suis dit, tiens, le nanar ultime, ça doit pas être banal.
Ouais.
Et du coup, je l'ai regardé. Et je crois que c'était durant un été. Et je crois que cet été-là, j'ai dû le voir, je sais pas, peut-être 4 ou 5 fois parce que après je l'ai vu avec Areski. Après, je l'ai vu avec d'autres. Areski l'a revu aussi.
Ouais.
À chaque fois, on agrandissait le cercle pour regarder ce que c'était. Et c'est vrai que c'est un film unique.
C'est un moment de communion.
C'est un moment de communion. C'est un film unique. Ce qui ne dit rien sur sa qualité. Et à partir de là, c'est un film que j'ai revu assez régulièrement. Voilà.
D'accord. Alice.
Moi, je l'ai découvert cette année. Arnaud m'en parlait très très régulièrement depuis assez longtemps. Et puis un jour, il m'a dit viens, on va au cinéma. Et je me suis doutée que ça allait être quelque chose de spécial quand Arnaud est arrivé une heure en avance à la séance et m'a demandé d'être à l'avance. Et là, j'ai eu peur. Voilà. Et après, je comprenais pas pourquoi on était autant en avance. Et après, j'ai vu les gens dans la file d'attente. J'ai eu très très peur. Donc si vous voulez, c'était des geeks déguisés en Tommy Wiseau et Lisa. Donc autant vous dire que c'était la fête du cheveu gras et de la robe mal taillée. Donc là, d'un coup, je me sens un peu bizarre, profondément décalée. Et puis on arrive, et comme on était les derniers, on est au premier rang. Et là, en plus, c'était une séance qui était organisée par des gens qui font des podcasts qui sont vraiment écoutés.
C'était Karim Debbache de Chroma venu présenter.
Donc si vous voulez, d'un coup on était à un concert des Beatles au moment où les filles enlevaient la petite culotte, tu vois, on était vraiment dans ce niveau-là d'intensité. Et moi, j'étais au premier rang, il y avait un photographe juste à côté de moi qui me filmait ou qui prenait en photo toute la salle, et je me sentais, vous voyez, premier plan là-dessus, je me sentais très mal. Je me suis dit, bon, là, où est-ce qu'il m'emmène? Et puis d'un coup, le film commence. Et en fait, ce qui est étrange avec ce film, quand même, c'est que même si on parle d'un nanar et d'un film qui, tout sur le papier, est extrêmement mauvais, on est quand même embarqué dans le film. Je veux dire, on décroche pas. Et c'est quand même la puissance de ce film-là. Et même si je l'ai vu donc avec des fans, donc avec tout ce, on va parler des cérémonies hein, maintenant qui s'organisent quand on voit le film, mais quand même malgré tout ça, on est dans un film. Et ça c'est très très surprenant. Mmh. Et c'est, je crois, que c'est le seul nanar que j'ai vu où j'avais la sensation quand même de voir un film bizarrement sorti d'une autre planète. Je pense que c'est un extraterrestre qui l'a réalisé, mais c'est quand même on est embarqué dedans. Et ça c'est très perturbant.
Non mais parce que c'est vrai que ce qu'il y a, c'est que généralement, et pour à une époque avoir vu beaucoup de nanars, le principe des nanars c'est que généralement il y a peut-être 4 ou 5 scènes sur lesquelles on va s'amuser avec des amis parce qu'elles sont vraiment over the top, et le reste du temps tu te fais un peu chier quand même devant les nanars. Et j'ai l'impression que The Room c'est pas le cas en
c'est
fait.
C'est pas le cas parce que c'est un millefeuille en plus, c'est-à-dire que non seulement c'est du nanar tout le long, mais en plus dans chacune des scènes, chaque dialogue, chaque petite parole, il va y avoir une sous-couche de nullité en fait dans ce qu'il dit, et c'est très important. Bah moi du coup voilà, j'ai découvert avec toi Arnaud, et moi j'ai envie de comparer ce film à, tu sais, la fascination morbide qu'on a quand on regarde les accidents de voiture, tu vois, sur le bas-côté, parce qu'en fait comme tu disais, on est fasciné par le film pendant tout le long du métrage. On est là, mais Qu'est-ce qui se passe? Qui a fait ça?
Il y a quelque chose qui revient tout le temps. Là, récemment, il y a Jean-Yves qui a ressorti ça. Quand on est sorti de la séance, Alice m'a sorti ça, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui revient souvent. C'est-à-dire, les gens qui voient ce film, souvent, ils comparent ça à David Lynch. Et en effet,
t'y penses tout le long. Quoi. Ouais. C'est assez perturbant en fait.
Il y a quelque chose de commun, mais c'est un peu la version naïve de David Lynch. C'est-à-dire David Lynch, il maîtrise parfaitement son outil, il sait de quoi il parle, il sait ce qu'il fait. On dirait que Tommy Wiseau a fait ça malgré lui. Et du coup,
c'est le même spectre, mais c'est un bout et l'autre. Tu vois, ça fait partie du même espace-temps quelque part. Il y a des obsessions communes, et il y a surtout quand on le regarde, il y a une base commune qui est quand même l'espèce de fascination pour le soap opéra qu'on retrouve chez David Lynch, mais d'un coup qui est génial, et lui fait des chefs-d'œuvre avec, en fait, donc Mulholland Drive. Sauf que là, Tommy Wiseau, c'est vraiment la base, c'est le soap opéra, c'est exactement ça, ça joue pareil, mais on est de l'autre côté, mais l'extrême naïveté. On dit pas naïveté. Hein.
Non, naïveté, oui.
Oui, c'est ça.
Tu fais des anglicismes, attention.
Je fais des. C'est ça, c'est la fête.
Tu te haresquises, attention.
Ça va pas du tout. On passe trop de temps. Mais non, il y a quelque chose de. C'est comme si on touchait, oui, une drogue pure. C'est une drogue, donc on parlait de drogue. Mais c'est comme si d'un coup, on avait accès à une partie. Extrêmement pur de quelque chose, mais c'est très bizarre.
Il y a une fascination, un peu comme Lynch, des décors de théâtre, tu sais, très léchés pour Lynch, pour le coup. Ouais. Mais ici, où il a vraiment juste envie de faire une pièce de théâtre. D'ailleurs, j'avais lu que le gars avait casté deux acteurs pour chaque rôle. Genre, il fallait avoir un understudy pour chaque. Ça n'existe pas dans un film, tu vois. Comme si quelqu'un allait partir. Ouais. Et d'ailleurs, ça s'est passé d'ailleurs pour le coup.
Mais parce qu'il y a quelque chose, et c'est vrai que c'est ce qui est très rare en fait dans ce film. Parce que bon, on va parler de ce qui est très mauvais, on va s'amuser un peu là durant ce podcast. Mais aussi, il faut vraiment souligner que c'est un véritable film d'auteur en fait. Que c'est vrai que c'est assez rare dans les nanars. Je crois que vraiment l'autre exemple, ça serait Ed Wood, quoi, qui était arrivé aussi à une espèce de pureté du nanar, tu vois, comme ça, avec des films comme Glenn ou Glenda ou Plan 9 from Outer Space. Ouais. Et maintenant, donc, Tommy Wiseau. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que du coup, j'ai lu, Alice m'avait offert à mon anniversaire The Disaster Artist, donc le livre écrit par Greg Sestero sur
Alice l'a à portée de main. Et oui, qui est donc un protagoniste du film.
En fait, Greg Sestero, donc, qui joue le rôle du meilleur ami de Tommy Wiseau dans le film, était vraiment son meilleur ami dans la vraie vie, et il a écrit un livre sur son amitié avec Tommy Wiseau. Et on en découvre un peu sur la vie de Tommy Wiseau, et ça éclaire vraiment, vraiment, vraiment beaucoup The Room, en fait, quand on lit le film. Et notamment tous ces rituels américains qu'il n'arrête pas de filmer, c'est-à-dire que, par exemple, lorsque deux hommes sont ensemble, ils doivent s'envoyer un ballon de football américain, quoi, parce que c'est comme ça que les hommes créent des liens. Et en fait, Greg Sestero nous raconte que la première fois qu'ils sont... ils ont été en date ensemble tous les deux, tu vois.
Il y a
un bro date, ouais. Il y a Tommy Wiseau qui est venu en voiture pour aller le chercher, et donc Greg avait un ballon de foot à la main. Et parce qu'il sortait du sport en fait, ouais. Tu vois.
Donc il a imprimé
et
ça.
Et il a imprimé ça parce qu'il faut savoir que Tommy Wiseau, en fait, petit à petit, Greg Sestero, au fil des années, il s'est rendu compte qu'il était son seul ami et qu'il n'avait sans doute jamais eu d'amis avant lui. En fait, c'est un type qui a eu énormément de mal en fait avec les relations sociales, et il calque beaucoup de choses, de trucs qu'il a pu voir en fait dans la pop culture américaine, ouais. Et ça ressort vachement, tu vois, dans le
mais
film.
Mais en vrai, c'est comme si c'était un alien qui apprenait comment étaient les relations sociales,
ouais.
Et qui copiait dès qu'il voyait quelque chose pour la première fois ça, et qui se disait c'est une généralité.
Ouais, ouais.
Voilà.
Et il le met dans le film, il le montre comme ça, et ce qui fait qu'on a vraiment l'impression comme ça d'une imitation de l'humanité. Tu sais, il y a un film de Douglas Sirk qui s'appelle Imitation of Life. Ça pourrait être le titre de The Room, en fait, tu vois. Il y a quelque chose de...
Oui, mais avec cette particularité qui rend le film... Parce que, à la limite, si c'était une heure et demie où il enchaînait ça... Je pense que l'effet perturbant, c'est qu'il le répète.
Oui, il le répète.
C'est ça,
oui.
la véritable... C'est-à-dire que tout se répète. Hein. Il n'y a pas beaucoup de sens dans chaque scène. Si vous voulez, il y a beaucoup de scènes gratuites hein, qui sont juste là pour...
Ouais.
Pour rien. Ouais,
ce film est truffé de scènes où des gens rentrent dans l'appartement de Tommy Wiseau et de Lisa et juste disent bonjour et disent bye.
Et
ils
repartent.
Ils ont rien à
et
faire.
J'ai pas le temps. Voilà.
J'ai pas le temps.
Voir. J'ai pas le temps. Et en fait, il y a une répétition. Il y a quelque chose de totalement hypnotique parce que comme c'est répété tout le temps et que en fait on cherche l'air de rien la première fois qu'on voit ça, notre cerveau est habitué à quand même avoir des films à chercher un sens. Mm. Au scène, on se dit ah on nous donne une information, ça va. Et en fait là, au bout d'un moment, notre cerveau est complètement bloqué parce que il répète ces scènes qui n'ont aucun sens. Et après, non seulement il les répète, mais d'un coup il y a un personnage qui va arriver qui va raconter la scène qu'on a déjà vue 3-4 fois.
Ouais.
Et pour rien en fait, juste pour dire ah il s'est passé ça.
Alors du coup on peut raconter l'histoire du film parce que c'est court au final.
Ouais.
Alors il s'agit de Johnny, un homme pour qui tout va normalement. Il a un emploi excellent, il a une femme.
Il va avoir une promotion bientôt.
Il va bientôt avoir une promotion, un meilleur ami génial et une femme qui l'aime.
Voilà. Qui est belle.
Qui est belle et qui est encore plus belle dans des robes rouges.
Dans des robes rouges.
Il lui offre des fleurs, c'est le meilleur client de la fleuriste du coin.
Ouais.
On a plein d'indices comme ça, c'est un mari modèle, il boit pas.
Après,
c'est important.
Après
et il s'occupe d'un enfant des rues qui a 18 ans.
Ah mon Dieu.
Voilà.
Ça, c'est...
Mais qui, et
ça,
qui agit comme un gamin de 12 ans, pervers.
Qui a l'air d'en avoir 30 surtout.
Ouais, qui en a 30 d'ailleurs.
Le film s'ouvre sur. Il rentre chez lui en tramway, ok. Il voit sa femme et on comprend que va s'initier une scène de sexe bientôt, mais qui est hop, très vite interrompu par Denny, donc cette espèce d'enfant.
L'enfant recueilli par Johnny.
Homme un
l'enfant
peu.
L'enfant du quartier.
Oui.
Je sais pas s'ils essaient de le faire passer pour un peu un handicapé mental ou pas en fait.
Non, en fait, je sais pas, mais encore une fois, c'est Tommy Wiseau qui projette des choses, c'est-à-dire qu'il connaît pas les jeunes. Donc pour lui, un gamin de 18 ans, pour lui, c'est un gamin de 12 ans, c'est un enfant, c'est la même chose. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a ce truc très étrange. Donc déjà, il a pris un acteur plutôt âgé, qui doit avoir 27-28 ans quand il fait le film, pour lui faire jouer un type de 18 ans qui a la psychologie d'un enfant de 12, en fait.
Ouais, c'est ça.
Et ça donne quelque chose de très bizarre, surtout au moment où, en fait, Johnny et sa femme Lisa vont dans leur chambre pour aller faire l'amour. Et du coup, Denis se dit qu'il veut aussi rentrer dans la chambre pour les voir en train de faire
et
pour
non,
les
non,
voir
parce
coucher ensemble.
Dit,
en fait.
Il le dit, j'aime vous regarder.
J'aime vous regarder.
Le
ouais.
Truc le plus creepy du monde.
Et tout le monde se marre.
Et on rigole. Voilà. En disant, mais oui, c'est normal. Un enfant, il a envie de faire l'amour. C'est normal. Et on est beau. Et on est son modèle. Donc, bah oui, il a envie de nous regarder faire l'amour. C'est normal. Qui n'aurait pas envie? D'ailleurs, on va vous en servir 15 minutes. derrière, c'est ensuite quand même une
donc
c'est tellement longue.
J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi narcissique pour filmer son propre cul avec autant d'amour.
Mais alors, il faut un peu parler là, des scènes d'amour. Donc, on a des musiques tout droit sorties du début des années 90.
Ouais.
Dans leur intégralité, elles sont in extenso dans le film.
Bah, et grosso merdo, dans un clip de Airbnb.
de R&B.
Je sais plus pas. R&B. On est dans le clip des Poetic Lovers.
Ouais, ouais, complètement.
Alors,
le truc
très étrange est très malaisant en fait dans ces scènes. Il faut un petit peu parler du corps de Tommy Wiseau, qui est particulier. Et on en parlait avec Areski là quand on le revoyait ce matin. En fait, quand tu vois Tommy Wiseau, Il y a un concept quand on voit généralement par exemple des personnages faits en images de synthèse. S'ils sont trop proches en fait des humains, mais qu'ils ont un peu des différences qui les rendent un peu creepy, on dit qu'ils sont dans la Uncanny Valley. C'est-à-dire c'est malaisant de les regarder. Mais en fait, Tommy Wiseau, on a l'impression qu'il vit dans cette Uncanny Valley. On dirait que c'est humain. Je vois que c'est humain, mais on dirait pareil une imitation de l'humain. Tu vois, il y a quelque chose de très.
À ces espèces de bodybuilders vieillissants qui reprennent des stéroïdes pour essayer de re-avoir une forme. Il ressemble à, tu sais, si tu laisses un action man trop longtemps au soleil et qu'il commence un peu à fondre, il ressemble à ça.
Et il y a un truc en plus, c'est qu'il s'était affamé avant le début du film pour paraître, tu vois.
Il est sec
comme c'est pas permis. Et en fait, quand il y a ses muscles qui bougent, mais on dirait vraiment genre un cadavre, et à l'intérieur il y aurait un gros parasite qui bougerait à l'intérieur, tu vois. C'est l'impression que ça fait, quoi.
Il paraît tout sec, on dirait qu'on peut le briser comme un morceau de pain un peu sec, tu vois. C'est momifié en fait. Et en fait, du coup, quand il touche cette pauvre fille, quoi, cette actrice qui elle est dans vraiment l'américaine typique, son corps est une brioche, vraiment. Et donc il y a un truc extra.
Alice a faim, je crois, parce qu'elle nous parle de pain momifié et de brioche.
Mais surtout, ce qui est le petit plus de cette scène, c'est qu'on sent vraiment que l'actrice est réticente en fait. Elle a pas envie de les faire, ces scènes.
Ah, moi je suis extrêmement gênée. La première fois que je l'ai vue, j'étais très gênée. Et pourtant, on a vu des scènes d'amour à Hollywood gênantes.
Clairement,
mais celle-ci.
Si vous regardez ce film, vous êtes complice d'un viol. Non, mais y a pas de...
Je pense pas, parce que clairement, là, il va faire plutôt l'amour à son nombril. Mais c'est ce qui est gênant, c'est qu'effectivement, il est... Je pense que toucher ce corps doit être très bizarre. Je suis sûre qu'il a une texture étrange. Et on voit ça dans les yeux.
Elle a envie de toucher.
On
a tous envie de toucher Tommy Wiseau.
On a un peu envie de le toucher.
C'est comme si c'était un nouvel état de la matière.
Je vois pas d'équivalent, je pense. Oui, peut-être effectivement ces gens bodybuildés à l'extrême, mais et encore, je pense qu'ils ont l'air plus vivants.
Et parce qu'il y a deux choses donc avec Tommy Wiseau, donc il y a son corps qui donne une texture assez particulière à ce film.
Son visage.
Mais la deuxième chose, c'est son jeu d'acteur, qui pour le coup c'est le truc le plus unique du film là aussi. C'est-à-dire que quelqu'un qui essaierait de le faire exprès n'y arriverait pas, en fait, j'ai l'impression. Il y a quelque chose, on dirait en fait que vraiment, c'est un corps automatisé, on dirait qu'on a remonté la clé et qu'il joue tout seul, en fait, des imitations de mouvements. On dirait vraiment qu'il n'y a pas d'esprit dans le corps, tu vois, qu'il continue...
Dans sa tête, de toute façon, Tommy Wiseau joue Johnny, joue à l'américain à qui tout sourit. Mais il faut savoir que cette personne donc, qui vient de Pologne à la base a un accent à couper au couteau. Mais pour lui, dans ce film, il croit que c'est un pur américain.
Un pur américain, oui.
Mais ce qui fait que tous les dialogues du film sont construits sur des phrases clés américaines, en fait. C'est ça qui est étrange. C'est comme s'il avait un petit algorithme dans la tête qui lui avait appris un certain nombre de phrases clés du quotidien des Américains. Et tout son scénario ne pouvait pas aller plus loin que ça, donc du coup, c'est répété. Et lui, il l'a dit, et je pense qu'il est très heureux de répéter ça. Il dit, regardez comme j'ai appris bien appris
l'expression. Ouais,
phrases,
tu sais, quand il dit « Don't worry about it », tu fais des trucs comme ça.
« Let's play football ». Ok. et voilà, c'est limité. En fait, le champ est limité. Je pense qu'en plus, c'est ça qui est très étrange, c'est qu'on sent que pour lui, il est extrêmement premier degré dans la façon dont il parle, et persuadé qu'il parle extrêmement bien anglais...
Et en fait, c'est ça où on a vraiment l'impression que c'est un type qui se voit en train d'être américain, quoi. Il y a quelque chose de...
Mais finalement, et qui touche quand même quelque chose de très juste sur eux.
Ouais.
Et je pense que c'est pour ça que c'est... Vous voyez, on n'est pas non plus que dans « Ah bah voilà, le mec, on rigole, c'est une bonne blague, c'est un sketch qu'on regarde. » Ça va plus loin parce que je pense qu'au final, il arrive à nous montrer quand même quelque chose de juste sur la société américaine. Il y a quelque chose d'une grande solitude
dans ce film, parce qu'on sent, et c'est vraiment un peu ce qui se passe dans ce film. Donc il fait grosso modo, il montre son fantasme de vie, c'est-à-dire que dans ce film là il a des amis, tout le monde l'aime, contrairement à ce qu'il est en fait dans sa vraie vie. Quand il organise sa mort, tout le monde est en pleurs autour de ce cadavre, tu vois. C'est vraiment quelque chose, c'est un truc du genre un psy pour gamin connaît ce genre de choses, tu sais.
Oui.
C'est vraiment un truc truc de psychologie
infantile,
tu vois, quelque chose comme ça, où il a envie. Et quand tu vois le fantasme de vie de Tommy Wiseau, tu te dis, c'est quoi son fantasme? C'est de se faire tromper par sa femme et c'est de se faire refuser des promotions au boulot, quoi. Il y a quelque chose de très très étrange dans ça. Il veut la vie d'un américain moyen, tu vois. Il y a quelque chose de très.
C'est apparent, ça sent la vengeance personnelle d'une meuf qui s'appelle Lisa, probablement, et qui l'a trompé.
Parce qu'il faut le préciser, autre chose qui l'a séparé sans doute du reste de ses contemporains, c'est que Tommy Wiseau est obscènement riche, en fait. Il a gagné de l'argent, on sait pas trop comment, même Greg Sestero ne sait pas comment il a gagné de l'argent. Toujours est-il qu'avant de faire The Room, il était multimillionnaire, quoi. Avec beaucoup de propriétés à San Francisco, des villas, des maisons, des magasins, des. Donc.
Mais il a acheté tout le matériel, en fait, au lieu de le louer pour faire.
Il l'a acheté, ouais. Tout à fait.
Ça ne se fait pas assez extrêmement cher, un matériel de cinéma quand même. Et il a tourné en 35 mm et en.
Ouais, le film a coûté.
Donc il a acheté deux caméras.
Le film a coûté 6 millions de dollars.
Ouais.
Mais ça, on dirait que ça a coûté 15 000, quoi.
Quelque chose comme ça. Mais parce que.
C'est la qualité d'un feuilleton bas de gamme.
En fait, je suis sûr que si tu trouves 15 personnes motivées, on peut le tourner, ce film. Là, nous, hein, on peut le retourner en une semaine.
Il y a Greg Sestero qui racontait, tu sais, dans The Disaster Artist, où il disait il a fait refaire un décor de la ruelle derrière la maison.
Ouais.
Qui ressemblait exactement à la ruelle à côté du plateau de tournage, en fait. Et du coup, Greg Sestero lui a posé la question, mais pourquoi on n'a pas tourné dans la rue? Et Tommy Wiseau lui a répondu, parce qu'on fait un vrai film hollywoodien, tu sais.
Donc il faut qu'on construise les décors.
Ouais.
Vous voyez, c'est exactement ce regard-là. Il veut l'expérience Hollywood, donc il l'achète, donc il refait. Mais c'est pareil pour le toit.
Ils ont tourné sur un parking.
Ils l'ont tourné sur un parking, ils l'ont recréé sur
avec
un parking.
Avec des fonds verts dégueulasses.
Avec un fond vert.
Et donc c'est l'expérience, mais juste pour donner une échelle, donc ce film là il a coûté 6 millions. Lost in Translation, le film de Sofia Coppola, a coûté 2 millions. C'est peut-être juste pour vous donner une idée, en fait, de ce qu'on peut faire avec de l'argent aux États-Unis quand même. Et en plus on est sur des films un peu similaires, avec très peu de décors, beaucoup d'intérieur, donc là on a vraiment.
Et nous parlons même pas de la France,
que l'argent,
où clairement avec 6 millions il y a des films d'action qui peuvent se tourner.
Oui.
Non, ça commence à être les grosses comédies françaises.
Les rivières pourpres.
Le
dernier train pour Busan, c'était 7 millions. Hein.
Oui, et encore c'est récent.
Ouais.
Ouais, donc voilà. Bref. Alors, vous amener un petit peu plus dans l'histoire, ce qui se passe, c'est qu'en fait, Lisa, sa bien-aimée, le trompe avec son meilleur ami. Et en fait, cette histoire-là va être ressassée pendant tout le film de « Non, je ne peux pas dire à Johnny que je le trompe parce que ça le détruirait. »
Et que c'est mon meilleur ami.
Et l'autre dit « Voilà, c'est mon meilleur ami, il faut que ça s'arrête. »
La phrase « C'est mon meilleur ami », elle doit être dite 30 fois dans le film,
voilà,
à peu près, je pense.
À peu près. Et pour arriver au final, au climax de la fin, où enfin, il confronte sa femme, enfin sa fiancée, avec un enregistrement qui prouve que...
Alors qu'il le savait
dès le milieu du film.
Il a déjà vu, en fait, son meilleur ami et sa copine s'embrasser, et il montre cette cassette...
Comme si c'était la preuve.
Comme si c'était une preuve, une révélation, oui, en fait. C'est très...
Et il se suicide, et voilà. Enfin, ça, pour le coup, c'est la baseline un peu du film.
Mais le truc qui est très particulier, c'est qu'on peut parler... Le film commence sur beaucoup de scènes de sexe. Il y en a moins,
oui,
après, mais les plus importantes sont toutes au début. Et s'enchaînent.
Il y en a trois à peu près dans les 15
minutes. Il y en a trois au début, ouais.
Toutes... Il y en a trois en 30 minutes, hein, sur un film qui dure quoi, 1h40, quelque chose comme ça. Donc, elles sont très longues. Et surtout, les plans sont réutilisés entre elles. Donc, vous voyez, en 30 minutes, on a l'impression déjà d'avoir ce corps comme ça. Et je pense que finalement, en le revoyant là, il est extrêmement clair qu'on est sur un film crypto-gay. Et vous allez dire que je suis une obsession avec, mais quand même, là, je veux dire, c'est assez clair. C'est-à-dire qu'on a ces scènes d'amour qui s'enchaînent et qui deviennent un espèce de fondu en 30 minutes où la véritable histoire d'amour est entre
Johnny
et son meilleur ami.
Voilà.
Et ils couchent ensemble, en fait, au début, à travers Lisa. On est sur de la psychologie de base, le transfert est là, et donc pendant tout le long, ça va être des déclarations d'amour de Johnny. Il ne veut pas perdre son meilleur ami. La femme, elle est nulle. Dès le départ, il l'installe comme quelqu'un de fourbe, qui le trompe.
Et même l'actrice qu'il a choisie, c'est-à-dire que Greg Sestero, c'est vraiment un beau gosse. Alors que Lisa est une fille tout à fait banale, quoi, on va dire. Ouais. Tu vois, c'est... Et le choix du casting, il est là. Et en fait, pareil, quand tu lis le livre The Disaster Artist, tu te rends compte que c'est une histoire d'amour. En fait, il y a une obsession entre les deux ahurissante. C'est-à-dire, c'est deux guéros foulés, en fait,
oui, c'est ça.
qui ont trouvé ce film un peu pour se rencontrer. Mais la manière dont il en parle, parce que ce qui est très étrange, c'est donc Greg Sestero, c'est l'acteur qui a été le mieux payé sur le film. Il l'a payé beaucoup parce que Sestero ne voulait pas jouer dans le film parce qu'il était persuadé que ça allait anéantir sa carrière. Il avait pas tort. Et du coup, il voulait pas jouer dans le film. Et en fait, Tommy Wiseau lui a proposé des centaines de milliers de dollars pour jouer dans le film parce qu'il voulait que ce soit lui, un acteur inconnu. Et pourquoi c'est...
Il a viré un acteur.
Il a viré un acteur au dernier moment.
Qui était casté.
Parce que pour le coup, parce qu'il voulait... c'était l'understudy, tu vois, ouais. Greg.
Il voulait filmer le corps de Greg en fait. Il voulait filmer. Et il raconte, il y a une scène dans le film où Greg s'est rasé la barbe. Il arrive et tout le monde lui dit waouh, comment t'es trop beau quoi.
Ouais.
Et en fait, il parle de cette scène dans le livre. C'est la scène presque la plus gênante où c'est Tommy Wiseau qui lui a dit il faut que tu rases ta barbe. Et il y a Greg Sestero qui lui a dit pourquoi c'est important pour le film. Et quand il a rasé sa barbe, il y a Tommy Wiseau qui l'a accompagné dans la salle de bain avec un caméscope pour le filmer et qui lui donnait les indications. Et il décrit la scène et on dirait vraiment qu'ils sont en train de faire l'amour, quoi. C'est-à-dire, il y a Tommy Wiseau qui lui dit vas-y plus près.
Ah putain, c'est
comme ça.
Trop mal,
voilà.
Ça.
Et t'es pas du tout parano, on le sent dans ce film. C'est une vraie histoire d'amour entre deux hommes. Et comme tu le dis, entre deux hommes et fait par un homme particulièrement misogyne,
avec
quoi.
Une meuf en tampon, en fait.
Oui, de toute façon, et puis qui apporte le vice chez les hommes, c'est-à-dire que, mais vraiment, on est sur, c'est-à-dire que quand elle séduit, mais c'est génial, les phrases qu'elle du scénario, en fait, les dialogues sont géniaux, en fait, parce que quand elle va séduire Greg, elle lui fait le coup juste d'une robe sexy, de trois catchlines un peu pourries, et lui, il tombe dans le piège de la femme vénale, mais à aucun moment, Tommy Wiseau veut donner un libre arbitre à Greg, il s'est juste laissé piéger par la femme. C'est vraiment le vice.
Il dit des choses comme qu'est-ce que tu m'as fait faire, ou
mais
des
surtout
choses
y a...
comme ça.
Exactement.
C'est la victime en fait.
Puis, en deux minutes, il est à poil, mais bon, c'est elle qui lui.
Sur Lisa, il y a quelque chose de très très intéressant, et c'est ce qui en fait pour moi un film d'auteur intéressant, au-delà du fait que ce soit un gros nanar, tu vois. C'est-à-dire, moi, ce que je dis souvent, c'est The Room, si Donald Trump avait réalisé un film, sans doute que ça aurait été The Room, tu vois. Il y a quelque chose comme ça. Et ce qui est assez étrange dans le personnage de Lisa, et il l'a pas fait exprès, mais encore une fois, ça va nous ramener à David Lynch, c'est-à-dire que Lisa est un personnage qui a deux personnalités. Une personnalité quand Johnny est là, et une personnalité quand Johnny est absent. Et il y a quelque chose de clair dans ça. C'est-à-dire que quand elle est là, c'est la fiancée modèle, vraiment. Et quand Johnny n'est pas là, vraiment, c'est la pire des sorcières qui dit des choses, mais que même la pire des sorcières ne dirait pas dans la vraie vie. C'est-à-dire que elle commence à l'accuser de tous les torts. Elle fait limite des rires diaboliques en disant que son but c'est de détruire la vie de Johnny. Et petit à petit, tu te rends compte, en fait, quand je regarde ce film, je suis dans l'esprit d'un paranoïaque qui fantasme les scènes des autres pendant qu'il n'est pas là. Il se dit pendant que je suis pas là, elle doit dire ça, alors qu'elle n'est pas du tout comme ça quand il n'est pas là. Et là, encore une fois, ça ramène à David Lynch, ça ramène à Lost Highway, en fait. C'est-à-dire que David Lynch l'aurait conscientisé et qu'il y aurait eu une vraie différence entre le monde où Johnny n'est pas là et le monde où Johnny est là. Et il aurait fait sans doute quelque chose de super intéressant sur un personnage complètement déviant qui imagine les autres en train de lui ruiner sa vie alors que tout se passe bien autour de lui. Ouais. Et du coup, ici, c'est pas conscient, il y a quelque chose de très naïf dans ça, mais que j'aime beaucoup. Et de finalement, très intéressant sur ça, c'est un vrai film d'un paranoïaque qui nous fait partager sa vision du monde en fait.
C'est très beau. Très beau ce que tu viens de dire.
C'est beau, moi je sais plus quoi dire derrière, à part que je tiens à préciser que fiancé modèle pour Tommy Wiseau, hein,
oui.
C'est-à-dire passer le balai, rester à la maison.
Absolument,
fait,
absolument.
C'est très drôle d'ailleurs, la toute première fois qu'on la voit. Elle est assise sur un canapé, elle se lève dès que Johnny arrive. Mais en fait, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle faisait, en fait? Elle était juste assise en mode veille.
Et ce qui est marrant, c'est qu'elle nous dit qu'elle travaille dans le computer business à un moment donné.
Mais je sais pas si elle parle d'elle ou si elle parle de lui quand elle dit ça.
J'ai jamais compris, c'est pas clair.
Et elle dit, ah là là, le computer business is so competitive. Et lui, il répète ça. Ok, je sais pas de quoi vous parlez, en fait.
Et aussi...
Est-ce qu'on peut parler? Il y a un truc très très important dans ce film.
Ouais.
C'est les persos secondaires.
Absolument.
Persos secondaires, c'est la base de toute la drôlerie du film. Il y a un film que j'ai envie de voir le film sur la mère de Lisa. La mère de Lisa, elle arrive, elle s'assoit, elle parle de personnes qu'on ne voit jamais. Elle est là, elle dit « Oui, mon frère veut récupérer de l'argent de la maison parce que blablabla. » elle fait 10 minutes dessus, j'ai l'impression. Et on s'en fout complètement.
Et elle raconte son cancer aussi. Et sa fille, comment sa fille réagit au cancer, c'est elle lui dit « J'ai eu les résultats des analyses. Bon, j'ai un cancer du sein. » Et il y a sa sœur qui, il y a sa fille qui lui dit « Oui, bon, ça va, ça se soigne bien quand même. »
Ça se soigne bien et c'est balayé.
Et c'est balayé. On n'en reparle plus dans tout le film.
Mille trucs. Et c'est balayé directement parce qu'on s'en fout.
Mais l'actrice est géniale. Moi, je l'aime. Je trouve que c'est. Elle est. Et finalement, si on doit parler. Parce que les acteurs secondaires sont très inégaux quand même. Mais je trouve que elle et Denis. Enfin, Denis. Sont vraiment pas mal parce que j'ai l'impression que c'est ces deux acteurs qui ont à peu près conscience de ce qu'ils font et de ils ont peut-être le plus de second degré et,
Mike,
et ils tirent les scènes vers quelque chose d'autre à chaque fois qu'ils sont là.
Si on parle de second degré, quand même. On parle de Mike qui fait la meilleure tête de personne qui reçoit une fellation de la vie. D'ailleurs, il commence à faire cette tête avant même
avec le chocolat dans la bouche.
Chocolat dans la bouche. Et là, les grimaces qu'il fait sur sa tête, mais c'est une œuvre d'art, quoi. Il y a quelque chose.
Fait, il faut expliquer qu'il y a un couple. On ne sait pas d'où il sort. C'est Mike et Estelle, je crois.
Michel.
Ils arrivent dans l'appart des protagonistes et ils baissent dedans.
Mais ils arrivent
mais
dans
les
le
protagonistes
film.
Sont pas là. En fait,
ils arrivent dans le film comme ils arrivent dans l'appart. Hein. C'est-à-dire que c'est la première fois que tu les vois. Ils arrivent dans cet appartement. Pour baiser, en fait.
C'est comme si des gens, ils rentraient chez vous, ils baisaient, ils repartaient.
Et apparemment, c'est quelque chose d'habituel, qui est tout à fait accepté. Je pense que pour Tommy Wiseau, c'est pour montrer toute la puissance sexuelle qu'il peut avoir, tu vois. Et autour de lui, bah, les gens ont envie de faire l'amour sur son
Je réalise,
côté.
Est-ce qu'il n'y a pas une lecture mother de The Room, à la base de, genre, son appart, c'est la terre, tu vois, les gens viennent se reproduire chez lui. Un truc comme ça, il faudra...
Moi, je pense que c'est juste, c'est un délire aussi un peu mégalo, et que, bah, quelque part, oui, pour lui... C'est... Pour Tommy Wiseau, en son esprit, c'est un compliment de vouloir que ses amis veuillent faire l'amour sur son canapé, tu vois, exprime leur désir sexuel
que
chez
la présence
lui.
Même, être plus ou moins dans sa présence, ou en tout cas dans un endroit où il a vécu, ça exsude de l'érotisme, en fait, dans ta vie.
Mais je pense que, de toute façon, Tommy Wiseau a dû faire très souvent l'amour en public, parce que pour lui, c'est quelque chose de parfaitement intégré.
J'ai les vidéos.
De toute façon, la première scène d'amour... Je pense que la première scène, de toute façon, c'est quand il y a l'adolescent qui leur dit bah oui, on peut te regarder, j'ai l'habitude de vous regarder. Ils font oh, pas cette fois. Oui. Tu vois. Mais bon, quand même, tu vois, ça a l'air d'être pas quelque chose de très gênant en fait de voir des gens faire l'amour derrière toi tu vois, sur son canapé. Je pense que le mec a été élevé dans une partouze en fait. Quoi,
c'est, non, mais je pense que c'est quelqu'un qui c'est ne ferme banal, jamais ses rideaux et qui baise sur le balcon, c'est sûr. Ouais.
Et
comme Peter, le psychologue.
Alors Peter, mais alors là, c'est sorti d'un film de Buñuel, quoi. C'est-à-dire, ce qui se passe avec Peter, c'est que aux deux tiers du film à peu près, il y a Tommy Wiseau qui parle et assis dans un fauteuil de son appartement se trouve Peter. Qui est Peter? On ne sait pas, mais il a l'air de lui parler comme s'il avait été présent depuis le début du film, en fait. Et il y a quelque chose de très étrange dans ça. On apprend qu'il est psychologue, mais et que donc Tommy a besoin de ses avis de psychologue, mais en même temps déteste quand il lui fait ses avis de psychologue. Donc il y a un rapport très ambigu à cette personne. Et c'est un personnage très étrange parce qu'il est là pour quelques scènes. Et ensuite, l'acteur qui joue Peter est remplacé.
Mais c'est pas un vrai ami, c'est le seul qui joue pas au football avec une
scène. C'est parce qu'il tombe. À un moment, il tombe.
Mais je suis désolée, c'est la vraie différence sur les hommes qui désirent ou pas dans le film. Cet homme-là ne joue pas au football.
Quand
avec
il tombe dans cette scène, ou d'ailleurs, dans cette scène, tout le monde se met sur son 31 pour aller prendre des photos de mariage.
Oui.
Avant le mariage.
Mais genre 3 mois avant
ça
le mariage.
Comme il n'y a que des hommes.
Bien sûr, ça se fait.
Comme il n'y a que des hommes, ils prennent un ballon de foot avec eux. Ouais. Ils s'échangent un petit peu quelques passes. Et à un moment, Peter tombe et dit non, mais c'est bon, je m'en vais. Et en fait, il s'en va du film. Parce qu'on le revoit plus.
Oui.
Enfin, il revient, mais joué par un autre acteur, pour le coup.
Que tu n'as jamais vu.
Ouais.
Et il arrive et il fait la morale à Lisa pour dire non, mais qu'est-ce que tu fais? Tu embrasses le meilleur ami de Johnny. Mais ce mec, on te connaît pas en fait. Ouais. Qui es-tu?
D'ailleurs, c'est à lui que Greg Sestero dit la fameuse ligne du film: You can leave your stupid comment in your pocket. Tu peux laisser ton stupide commentaire dans ta poche.
C'est très what the fuck. C'est franchement un film où t'as envie de dessiner sur ton écran des points d'interrogation à chaque scène.
Non, mais c'est assez connu parce que après il y a des détails dans le film dont on peut parler, c'est-à-dire que effectivement il y a ce truc des petites cuillères. Oui. Dans les cadres du décor, c'est ça. Au lieu de mettre des personnes, il met des petites.
Alors, il y a tout un même... tas de cadres de photos de famille où d'habitude, t'as l'habitude de voir les parents, les enfants, les frères et sœurs.
Et ici, d'ailleurs, dans les films en général, tu sais, c'est toujours des mauvais montages Photoshop de visages, etc. Là, il a dit.
Alors non. Là, c'est pas des mauvais montages Photoshop, mais pour le coup, c'est des photos d'argenterie, ouais.
Et on comprend pas parce que pourtant, il va loin dans le détail pour imiter. On sent qu'il a quand même observé. Autour de lui, donc même les appartements, le coup du on fait du sport, on joue au football, tout ça, je ne comprends pas, parce que ça peut être que voulu en fait, pourquoi il a mis des petites cuillères, à quel moment il s'est dit ça, c'est le détail qui va faire vrai, j'ai jamais vu de petites cuillères en fait dans un cadre, je pense même pas qu'on vend les cadres avec des photos de petites cuillères. Tu vois, il y a un truc,
Mais c'est ça, c'est pas les photos génériques que tu trouves avec les cadres. C'est ça qui est bizarre, en fait.
Si à la limite, il avait laissé les photos génériques, tu dis, bon, ok, pourquoi pas. Mais je pense qu'il a dû insister, en fait, parce que même un décorateur nul aurait eu quand même l'idée de mettre au moins un poney dans le cadre.
Non, mais c'est sûr, parce que c'est un contrôle freak. Et je sais que même quand Greg Sestero essayait de faire un petit peu d'impro ou quelque chose comme ça, il se mettait dans une furie noire.
Alors ça, c'était aussi l'autre problème. Alors c'est quelque chose dans la vie de Tommy Wiseau. Donc Tommy Wiseau est polonais, il vient d'une famille pauvre. Il a vécu quelques années à Paris. Et apparemment, il y a quelque chose qui s'est très mal passé qui fait qu'il déteste tout ce qui se rapporte à la France. C'est-à-dire il parle couramment français. Et Greg Sestero, sa mère est française, donc il parle français aussi. Et dès qu'il y a quelque chose, tu remarques que dans le film, notamment, il dit jamais le mot fiancé, qui est un mot, français utilisé dans la langue anglaise. Il dit future wife.
Yeah.
Qu'on ne dit pas, normalement. Ouais, ouais. Et en fait, ce qu'il raconte Greg Sestero, c'est que de temps en temps, pour essayer de faire réagir Tommy Wiseau, parce qu'il avait l'impression que c'était un zombie qui jouait face à lui, il sortait des mots de français pour le faire réagir. Et notamment, à un moment donné, dans le parc, en fait, il y a Tommy qui se rue sur lui pour le foutre à terre, tu sais.
Ouais.
Et en fait, il y a vraiment pété la gueule parce qu'il venait de lui parler en français.
Oh, sérieusement?
Ouais, ouais.
C'est pour ça que du coup, on ne le verra jamais présenter The Room en France, quoi. C'est triste.
Si, il est déjà venu France, ouais.
Peut-être qu'il s'est depuis, calmé depuis son gros succès.
Non, je pense que surtout on le paye très cher pour venir. Il doit financer maintenant.
Ouais, mais il a été violé. N'allons pas chercher, je veux dire tout
ça. C'est possible.
Non, je pense qu'il a grandi. De toute façon, c'est un homme qui a grandi dans des choses. Je pense qu'on peut pas imaginer pour être autant atteint. Je veux dire, même Michael Jackson a eu une enfance normale à côté.
Est-ce que c'est quelqu'un qui a grandi
Est-ce qu'il a grandi C'est une vraie question.
C'est Benjamin Button. Ça, en fait.
Je le vois.
Mais non, mais c'est trucs sur sa vie. C'est-à-dire que Greg, il parle que quand il est arrivé aux États-Unis, en fait, il a vécu justement, c'était peut-être ça. Je crois que c'est en France. Il a vécu longtemps en fait avec un vieux monsieur. Et Greg Sestero, il laisse sous-entendre, mais il dit, il m'a jamais dit ce qui s'était passé. Oh, quoi,
mais tout ce qu'on peut savoir de ce film, c'est creepy.
Ouais, ouais.
C'est un truc où t'as envie d'appeler les gens de
non, mais
c'est l'enfance.
C'est un vrai drame qu'il a vécu.
Il a été élevé dans un milieu à part, quoi. Et on a accès à ça à travers le film, mais c'est très perturbant parce qu'on se dit que c'est qu'une surface, que l'homme qui est derrière ça a dû vivre des choses tragiques.
La chose qui est assez dérangeante en fait quand tu regardes le film, c'est alors je sais pas si vous connaissez ce livre de Scott McCloud qui s'appelle L'art invisible en fait, qui est un essai sur la bande dessinée en bande dessinée.
D'accord.
Et en fait,
ouais, je suis en train de le lire, tu me l'as donné.
C'est assez génial. Et à un moment donné dans le livre, en fait, il explique les différentes étapes pour devenir artiste. Et en tout cas, un artiste de bande dessinée, il explique que généralement, la première chose qui va attirer, en fait, c'est le dessin. C'est cette chose de surface, et il décrit les différentes étapes, ou comment, au début, en fait, quand tu imites les gens que t'aimes, tu n'imites que la surface.
Ouais.
Et que petit à petit, quand tu commences à te poser des questions sur l'art, tu vas te poser d'autres questions, des questions de composition d'image. Puis après, cette question de composition d'image, comment ça se rapporte à quelque chose d'honnête et de vivant en toi, et comment petit à petit, et donc il le décrit comme une pomme qui aurait plusieurs couches, le but de chaque artiste, c'est d'arriver jusqu'au pépin, jusqu'au centre de cette pomme, et pour parler de quelque chose de profond, et qu'il faut traverser toutes ces couches, en fait, pour arriver jusqu'au pépin. Et que, y en a beaucoup qui s'arrêtent en surface, en fait, tu vois, et qui vont pas plus loin. Et ce qui est très étrange dans le film de Tommy Wiseau, c'est, on dirait qu'il y a que le pépin, en fait. Il y a pas du tout la construction qui se fait autour. Il y a quelque chose de, tu sais, ce qu'on appelle l'art brut, quoi. le ces choses qui peuvent être sincères mais qui sont faites sans aucune technique. Il y a beaucoup d'artistes comme ça, beaucoup qui étaient des fous justement, qui ont passé leur vie. Par exemple, il y a Henry Darger qui était un auteur fou américain qui a passé sa vie reclus dans une toute petite chambre de bonne aux États-Unis. Et qui avait un métier où personne ne savait limite qu'il existait. Il était concierge, je crois, ou quelque chose comme ça. Et à sa mort, en fait, on a découvert des millions de dessins et un livre de 5000 pages dans son truc qu'il avait passé sa vie à écrire et à faire, où il avait créé un monde très, très étrange autour de ça. Et quand tu vois ces dessins, il y a quelque chose... On dirait des dessins d'enfants, mais non. Il y a quelque chose de très dérangeant dedans. On dirait The Room, en fait. Ces dessins-là, c'est The Room, tu vois. Ouais. Et je pense vraiment qu'il y a quelque chose de l'art brut, tu vois, dans The Room.
Ouais. C'est comme... ouais.
Non, je suis assez d'accord en fait là-dessus. Hein. C'est
comme, je sais pas, c'est un enfant mais avec une âme plus vieille, tu vois.
Mais non, mais c'est peut-être qu'on peut en revenir à l'aspect auteur du film parce que peut-être c'est ça qui va le différencier de tous les autres nanars qu'on peut connaître, c'est que on peut pas nier, en tout cas tous les ingrédients sont là pour en faire un film d'auteur. Et je pense qu'il faut être très sérieux en disant ça quand même. Les gens se moquent parce que au début du générique il a réalisé, produit, etc. Mais bon, pourquoi pas, c'est la règle aussi d'un film d'auteur, c'est d'être entièrement, quoi, de réaliser, d'écrire. On voit qu'il y a beaucoup de cinéastes aussi américains qui produisent leurs films, qui les montent eux-mêmes, donc on va pas lui enlever ça, à la limite beaucoup le font, mais et aussi il arrive à avoir un point de vue quand même. Et je pense que quelque part, dans beaucoup de nanars, on n'a pas ça. On a des choses drôles, over the top, mais le point de vue n'est pas souvent là, en fait, d'auteur. Et lui, il y a un regard, et le regard est là, et il est juste, et ça a beau être extrêmement dérangeant et parfois un peu pathétique, à la fin, on a quand même, j'ai l'impression...
Mais c'est ce qui fait la réputation du film, parce qu'en vrai, des films aussi mauvais que The Room, il y en a plein. Il y en a plein. On en a vu, genre, oui. Justice League, c'est aussi mauvais que The Room, tu vois. Non, mais oui, vraiment, il faut le dire.
Mais après, est-ce que... Ça vient
non, mais
pas
Showgirl
aussi
2,
du...
pourquoi
Showgirl 2 c'est... Pourquoi Showgirl 2 c'est aussi mauvais que The Room, tout à fait, qu'on a fait l'année dernière, et pourtant il a pas ce culte autour. Et pourquoi
exactement.
Il a pas ce culte?
C'est quoi la différence entre...
C'est parce que...
Ouais. Pourquoi c'est quoi la différence entre Showgirl 2
et
The Room?
Il y a ces hordes de personnes dont on fait partie, hein, qui se moquent du film, où à chaque fois on se marre en fait de comment c'est mal fait, de toutes ces choses-là, et au-delà de ça, on sait qu'il y a quelque chose en fait dans ce film. Qui nous attire, tu vois.
Est-ce que ça...
Non, on peut le revoir.
Est-ce que le genre du film déjà joue pas un peu? Parce que tu vois ce que je veux dire, c'est un drame romantique, c'est rare.
Ouais, mais j'ai envie de dire, ça ressemble vraiment. Ça ressemble vraiment. Ouais, il y a Showgirl 2 et ça ressemble vraiment, tu sais, à les téléfilms de merde, Lifetime, tu sais, ou les trucs comme ça.
Oui, qui sont très
les téléfilms de Noël?
Et on les regarde pas.
Il y a le dessus en plus. L'étincelle.
Le téléfilm de Noël, t'arrives pas à aller au bout, ou tu le regardes une fois avec.
L'étincelle de pathétique de l'auteur derrière. Tu vois derrière chaque plan en fait. Parce qu'en fait, c'est ça aussi qui est très intéressant.
Mais parce qu'on le découvre lui.
Exactement.
C'est
ça que j'allais dire.
Et c'est ça la différence.
C'est qu'en fait, à chaque scène, chaque plan, on voit et on sent même la personne et ce qu'a voulu faire la personne. C'est comme si, je sais pas, tu donnais effectivement des exercices de dessin à un enfant, mais tu voyais que ce qu'il a fait, ce qu'il a tenté de faire, de copier.
Non, mais en fait, c'est exactement ça. En fait, je vais te dire, dans tous les
mouvements,
imagine que t'as une classe de 30 élèves et tu leur demandes de faire des dessins sur leur week-end, tu vois. Et tu vas les voir, ils vont tous à peu près se ressembler. Tu vas les voir avec papa, maman, tu vas voir le cheval, tu vas voir la licorne, tu vas voir le dragon, tu vas voir les trucs comme ça. Et Tommy Wiseau, en fait, c'est le dessin avec les sourires d'enfant du cheval décapité, quoi.
Exactement. Il y a une maison qui prend feu et il est souriant devant. Bah oui, papa, il met le
papa,
feu.
Papa, il met le feu et il viole la petite sœur. C'est le dessin de ça.
Non,
en
mais
fait,
moins que ça. En fait, tu vois juste de la fumée derrière. Parce que du coup, tu sais pas ce qui se passe. Tu devines qu'il y a des choses décapitées. Mais et t'es là, tu te dis, oui, mais à Paris, il a été violé, sûrement. Oui, c'est passé ça. Mais tu sais qu'il y a eu des. Que cette personne est un drame en soi.
Mais qu'il en a pas conscience d'ailleurs, hein. Je pense que pour lui c'est pas du tout...
En fait c'est ressorti malgré lui dans le film, c'est ça qui est fou quoi.
Ça a transpiré. Ouais.
Mais quand même il se dévoile à chaque scène, même si... Et souvent ce qui revient le plus souvent qu'on entend les commentaires de The Room, c'est que les scènes n'ont aucun sens, c'est ce qu'on disait au début. Il y a beaucoup de scènes comme ça qui ont l'air de rien, qui sont là, on se demande pourquoi elles ont été mises là, pourquoi elles ont été tournées. Mais quand même, à chaque fois, ça nous donne une nouvelle fenêtre sur la personnalité de Tommy Wiseau qui est de plus en plus perturbante. Et ce qui fait qu'on a envie de continuer, on a envie de... Et à chaque fois qu'on revoit le film, on voit un nouveau détail, une nouvelle chose de plus en plus perturbante, en fait. Et il nous laisse pas tranquille, ce film. On peut pas rester. On n'est pas intact.
En fait, c'est ça. Tu peux pas être intact. Ce film, c'est comme si vous écoutiez une cassette de séance de psychanalyse de quelqu'un. En fait. et du coup, t'as envie de suivre, même si la personne, peu importe, c'est une personne peut-être lambda. Enfin, c'est pas une personne lambda, c'est ça,
en fait.
Mais on a envie de d'en savoir plus, d'en emmagasiner plus de ces scènes pour essayer de dessiner un peu la personne. Et c'est là où il réussit, tu vois.
Ah ouais.
Oui, et en même temps, il arrive à tourner en ridicule tous les rituels qu'on peut avoir, c'est-à-dire quand il tourne la scène d'anniversaire, on a tous vécu une scène d'anniversaire surprise, et finalement, il met en scène ça, et il nous montre à quel point on est aussi... Parce que comme il ne montre que les codes sociaux, parce que c'est la seule chose qu'il arrive à capter, puisqu'il n'arrive pas à le recréer naturellement, donc on voit, c'est très mis en scène, c'est très extravagant, en fait, finalement, et tout est surjoué. Mais donc, on se dit, mais oui, effectivement, mais en même temps, nous aussi, on joue à ça. Quand tu fais une fête surprise, il n'y a rien de plus débile qu'une fête surprise. Je veux dire, on joue tous à être surpris, à faire « Ah, oh, super, j'adore qu'on passe », mais non, on n'aime pas ça, ouais. Tu vois.
Et c'est vrai,
Alice
qu'il va...
parle pour elle, donc attention, ne lui
c'est
vrai, pas d'anniversaire.
Elle déteste les surprises, Alice. C'est...
On en fait chaque année,
mais il y a toujours un ami pour éventer la surprise, pour tu vois que ça, que ça passe.
Mais je joue la surprise.
Est-ce qu'elle joue bien la surprise?
Moyen, on est tous au courant. Hein. mais le truc aussi avec cette fête surprise, c'est il dit quelque chose de très très étrange au début de cette fête. C'est il dit tiens, une fête surprise, Lisa, tu as invité tous mes amis, c'est une très bonne idée.
Ah oui. Mais en fait, attends.
Comme si genre c'était un truc.
Le phrasé, mais le c'est une bonne idée était lié à tu as invité mes amis, pas là à la fête. Et du coup, tu fais ah, t'as fait une fête, c'est cool d'avoir invité des gens que je connais. Mais oui,
oui
mais c'est
ça
con, quoi.
Mais comme si c'était une surprise, comme si c'était d'habitude, on fait pas ça, quoi.
C'est complètement.
Mais c'est comme parfois, on l'entend passer une commande de pesto, je sais pas, et elle est hyper précise, oui. Tu vois, dans ce qu'elle dit. Genre genre pas trop de fromage.
Ouais.
Ça sert à rien, tu vois. Mais
elle est géniale.
Moi, je l'adore. Et en fait, elle est un peu genre, ouais, attends, c'est une fille qui maîtrise son truc, elle sait vachement bien commander les pizzas, parce que, en fait, il a compris que les Américains adoraient commander des choses qui sont à la carte en changeant totalement le menu, tu vois. C'est un truc c'est hyper vrai. Américain, vous voyez que ça, que la base. Et c'est une façon de se faire respecter, c'est de changer. Et il le dit, en plus, dans le livre, il y a des scènes où Tommy Wiseau fait ça au restaurant, en fait. Et tu vois, tu commandes un truc et tu changes tout. Et en fait, du coup, il montre ça aussi. Et donc, c'est. Mais tu sais, il nous montre aussi ce qui est ridicule dans notre façon de faire au quotidien. On en connaît tous, tu vois, des gens comme ça qui commandent des choses aberrantes. Mais sauf que là, d'un coup, ça sort de nulle part. Normalement, dans
ça,
le film,
ça revient une deuxième fois, ça, quand il fait une scène à Starbucks qui s'ouvre sur un plan d'une minute où tu vois quatre figurants prendre leur commande,
des gens,
en fait.
Des gens dire « je veux un café, un cheesecake », c'est tout.
Ouais.
Déjà, ils arrivent avec des faux bruits de café en fond.
Ouais.
D'ailleurs, il y a un gros problème de post-synchro pendant tout ce film. Quasiment, j'ai envie de dire 50% de tout ce qui est dit, c'est post-synchronisé.
Surtout lui. Lui, 100%.
À lui, 100%. Et dès qu'on peut avoir un plan de quelqu'un de dos, tu es sûr d'avoir de la post-synchro sur ce qui va être dit. Les bruits de machine à café, c'est post-synchronisé. Rien n'est réel, en fait.
Ouais.
Rien n'est sur l'eau.
Ah bah t'écoutes une bande
exactement.
De son.
Gratuite, probablement. Si t'entends pas un jingle de.
Et puis ces choses, ces décisions de mise en scène très étranges, c'est comme il y a pour moi un des plans les plus étranges. À un moment donné, Denis rentre dans l'appartement. Lisa va lui parler. La porte reste ouverte et tout d'un coup, il s'agenouille par terre. La caméra fait un travelling sur eux. Tu sais pas pourquoi ils s'agenouillent. Ils parlent un petit peu agenouillés, puis la caméra recule et ils se relèvent. Pourquoi se sont-ils agenouillés, tu vois? Il y a plein de questions
c'est
comme
genre,
ça dans ce film.
C'est que
tu...
chez vous, c'est comme si vous vous asseyez à côté de votre canapé. Ils sont à 3 cm du
le canapé.
Le canapé
est en amorce dans le
oui,
plan.
Oui, c'est
hein.
ça. Et ils parlent, et ensuite, qui fait ça? Qui s'accroupit pour parler? Alors que t'as ton canapé à côté. Je sais pas.
Mais
c'est comme quand Denis, il y a cette très jolie scène où, mais pareil, quand je vous dis qu'il, à travers Lisa, il montre le désir que les gens ont pour lui, il y a quand même Denis qui va lui avouer qu'il est amoureux de sa copine. C'est la scène pour être très, quoi, en même temps, c'est une très belle idée de cinéma, quand même, tu vois. un jeune comme ça qui dit non, mais pourquoi pas, tu vois, on pourrait en faire quelque chose de très très beau finalement. C'est... Et tout ce qu'on on voit, c'est lui qui est heureux de recevoir ce compliment, en fait, à travers le désir que provoque sa copine, c'est le désir qu'on a pour lui. Et donc, c'est quand même le filtre, c'est un filtre.
Exactement.
Lisa est un filtre. Et pour recevoir de l'amour. Et donc,
c'est exactement ça. Mais en plus, il y a ce petit truc aussi de voir en déni une sorte de mini lui, une sorte de mini psychopathe comme lui, tu vois.
Oui.
Et c'est pour ça qu'il l'aime. Oui, voilà, c'est son mentor de psychopathie.
Et surtout, Danny, on sent que ça ouvre sur ce que Tommy Wiseau a peut-être été. C'est-à-dire qu'à un moment, il avait un problème de drogue. Et donc, c'est comme s'il il s'autorisait, à travers ce personnage, un passé un peu turbulent qu'on peut pardonner, tu vois. Donc, c'est vraiment une espèce de double naïf.
You are tearing me apart, Lisa!
On a eu un petit problème technique de notre côté, Arnaud et moi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme Tommy Wiseau, on va répéter ce qu'on a dit.
Et ça sera mélangé avec mes réactions qui, elles, ont été enregistrées. Donc, vous aurez les deux espaces-temps. Moi, je pense qu'il faut faire ça, les gars. Faut assumer, tu vois.
Alors là,
donc, faut prendre les morceaux où t'étais la
meilleure. Le montage va te prendre. Et juste au moment où on allait parler d'une scène assez incroyable où on découvre que Danny était un dealer de drogue.
Ouais.
Ou un drogué, mais bon...
Les deux à la fois, sans doute. En fait, toujours est-il qu'il y a le dealer de drogue, donc Chris R, qui monte sur le toit de l'immeuble. Bon, comment il est arrivé sur le toit de l'immeuble, ça, on n'en a aucune idée. Mais il va demander à Denis de l'argent qu'il lui doit, et Denis lui répond qu'il n'a pas l'argent sur lui. C'est un fait.
Voilà. Mais qu'il l'aura dans 5 minutes.
Il aura l'argent dans 5 minutes. Alors... Où, comment va-t-il le récupérer alors qu'il est sur un poids? Pourquoi 5 minutes?
Bah, c'est pas... Moi, il y a 20 minutes, j'avais émis l'idée qu'il allait demander à Johnny, parce qu'il était chez lui et que c'est visiblement quelqu'un qui a de l'argent et il a l'habitude de lui venir en aide. Donc, Johnny est toujours là qu'on a besoin de lui quand même. Hein.
Toujours est-il qu'à ce moment-là, il se fait sauver par Johnny et Mark qui kidnappent le dealer et qui disent qu'ils vont l'amener au poste de police. Mais là, ils disparaissent du toit pendant 30 secondes et reviennent et l'affaire est réglée. Moi, je pense qu'ils ont tué le dealer dans la cage d'escalier parce que je vois pas d'autres explications.
D'ailleurs, j'y pense, c'est peut-être comme ça que Tommy Wiseau lui-même a gagné de l'argent. Hein. Il a dû tuer des dealers, récupérer leur thune.
C'est Dexter,
en fait.
C'est fortement possible.
Et à ce moment-là, en fait, pendant qu'ils sont absents, on assiste à une scène, à la scène magique de direction d'acteur du film. Où on voit en fait Lisa, sa mère en train de parler à Denis et ça s'engueule. Et j'ai jamais vu une scène aussi hystérique de ma vie, même dans toute l'œuvre de Xavier Dolan. Quoi. Il y a quelque chose
c'est
de.
C'est bien, alors t'avais ajouté Nicolas Cage précédemment. Je te donne des indices sur ce que t'avais dit il y a 20 minutes.
Elle souffle. Et j'avais dit que probablement Nicolas Cage, roi du cabotinage, avait un portrait chez lui de la mère de Lisa.
Il était jaloux de cette scène. Hein.
Et là, on a enchaîné sur James Franco qui va jouer.
très bien. C'est génial d'avoir. Elle est quasiment script en fait.
C'est ça.
Elle est greffière, Alice. Oui, parce que c'est vrai que le rôle de Tommy Wiseau va être joué donc par James Franco dans le film de James Franco, The Disaster Artist. Moi, j'ai hâte vraiment juste de voir quelqu'un imiter Tommy Wiseau parce que voilà, simplement le personnage Tommy Wiseau, ça me plaît que quelqu'un puisse l'imiter dans la culture pop, tu vois.
Ouais.
Après, je vois ton œil, Alice, de te dire est-ce qu'il fallait pas quelqu'un d'encore plus over the top que James Franco? C'est possible.
C'est pas James Franco over the top, il sait l'être en fait. Et il y a des personnages comme ça qu'il a fait. Je repense au film sur. Où il joue cette espèce de rappeur blanc.
Spring
Breakers.
Spring Breakers, où je le trouve vraiment très bien. Vous voyez, là, il est très juste, mais il est dirigé par Harmony Korine. Et il est, moi, je l'aime beaucoup dans ce rôle-là. Donc, on sait, moi, je le sais capable de jouer et de le faire très bien. Je pense juste que c'était pas la bonne. C'est pas le bon acteur. Effectivement, quand on parle de Nicolas Cage, pour moi, c'était vraiment l'acteur qui pouvait atteindre cette naïveté. J'arrive plus aujourd'hui avec naïveté, quoi. C'est pas possible, ça faut couper. Hein.
Non, c'est parce qu'on est à côté de Noël, et du coup, tu penses à nativité en même temps. Et donc, voilà, c'est ça.
Il faut dire, j'ai pas dormi cette nuit, voilà. J'ai fait une petite insomnie, ça allait pas du tout.
Et t'as vu The Room en boucle.
J'aurais dû. Mais en fait, oui, d'ailleurs, j'ai commencé à le revoir à 3h du matin, peut-être pour ça que ça m'a perturbé.
Ah ouais.
Je peux pas le revoir seul, en fait, ce film. Et mais oui, Nicolas Cage, quand même, il a atteint ce moment dans sa carrière où il a dépassé un stade. Je sais pas, tout le monde se pose la question de où est Nicolas Cage dans ses films.
Ouais.
Il est quelque part ailleurs, il est là physiquement, mais son esprit est partout, à la fois et nulle part. Et donc, je pense que
dans
voilà,
un plan astral de la comédie.
C'est un chaman en fait.
Voilà, c'est devenu un chaman. Je pense qu'il fallait. On a des acteurs comme ça aujourd'hui à Hollywood qui auraient pu peut-être incarner au mieux en fait le côté astral de Tommy Wiseau, et ce qui est pas James Franco. Je le trouve trop jeune. Ouais. Tommy Wiseau, on a un rapport avec son âge qui est extrêmement étrange. Moi, on me dirait qu'il a 70 ans, je pourrais limite y croire. Et vous voyez, James Franco a pas assez fait de chirurgie esthétique dans sa vie. Il est pas passé par les stéroïdes, ça se sent.
Après, il est bien grimé. Il a l'air, en tout cas, bien grimé.
Bien
dans
sûr,
le,
parce qu'ils savent le faire, tu vois. Et puis, on voit des photos où il a les fameuses doubles ceintures de cul de Tommy Wiseau. Vous savez, il se balade toujours avec double ceinture. Et voilà, donc on sent, mais moi, je sens l'accessoire. Dans un sketch SNL, je peux y croire et ça me fait rire.
Oui.
Dans un film comme ça, je pense que, en tout cas, ça méritait mieux. Et après, moi, j'avais un vrai doute sur le casting de Greg, qui est joué par son frère, le frère de James Franco.
Voilà.
Et ça enlève quand même beaucoup, beaucoup du texte...
homosexuel.
Ouais, de la véritable histoire d'amour du film. Ah. Et voilà.
Après, moi encore, je donne tout mon crédit à la tension homo-érotique qui est créée par les Franco dans tous leurs films, à peu près.
Je sais pas. En tout cas, moi, j'espère vraiment qu'ils passeront pas à côté de ça. Hein, mais...
Non, pour moi, il y avait un acteur qui était très bien pour jouer Greg. Vous savez, c'est cet acteur américain dont j'ai plus le nom, mais qui parle tout le temps français dès qu'il peut, qui a joué dans un film où il fait un cuisinier.
Bradley Cooper.
Ouais. En fait, pour moi, le casting.
Ah ouais, Bradley Cooper, c'est un bon Greg, ouais.
Bien sûr, c'était Bradley Cooper, Nicolas Cage, et à la limite, Dave Franco, il aurait fait un parfait Danny.
Mais ouais, carrément.
Je suis productrice, les gars, vous voyez, j'ai des visions, moi. Et donc voilà, on pouvait aller, mais ça manque. C'est une bande de potes qui va très talentueux, et je me doute, on se disait qu'on irait le voir de toute manière, le film, hein, mais qui fait un petit délire entre eux, et on va s'amuser à voir James Franco et ses potes qu'on connaît par cœur faire le film, mais je pense que ça ira pas beaucoup plus loin, voilà.
Ouais, c'est clairement, c'est vrai qu'ils sont un petit peu dans ce système là hein, les Franco, Seth Rogen et tout ça, ils ont beaucoup plus tendance à se dire tiens, faisons un film sur ceci, et sans forcément plus, tu vois, c'est un peu le délire entre potes, comme le film, tu sais, avec le Kim Jong-un, là.
The Interview.
Oui, voilà, exactement, The Interview, tout à fait.
Et ouais, on voulait aussi toucher un mot du folklore autour de The Room.
Ouais, puisque, par exemple, pour reprendre justement ce qu'on disait tout à l'heure sur les plans, sur des photos de cuillère, des photos de cuillère, c'est que maintenant, à chaque projection de cinéma, on doit balancer des cuillères sur l'écran quand
et
on voit les cuillères à part.
Et les cuillères sont fournies en fait avec la place de cinéma, c'est-à-dire que tu tends des cuillères au début de la projection que tu peux lancer sur l'écran dès que tu vois des cuillères en photo, quoi.
Voilà.
Bah, c'est-à-dire que le film qui revient le plus quand on parle de The Room, pour dire ce que c'est The Room, c'est The Rocky Horror Picture Show. Alors que c'est extrêmement différent, puisque The Rocky Horror Picture Show a été fait pour être vu...
De cette manière-là, en fait.
De cette manière-là. Donc c'est un show en soi, et le fait que ça devienne un show au visionnage, c'était fait pour... Par contre, The Room, c'était pas fait pour ça. Mais c'est créé, en fait, le même... ça a été découvert à Hollywood par quelques personnes.
Ouais.
Et puis après ça a fait un effet boule de neige, arrivé jusqu'en Europe, et donc maintenant qu'on va voir le film, ce que je disais donc tout à l'heure et je me répète, je sais pas si tu vas le monter deux fois Arnaud, histoire de faire comme dans The Room, c'est qu'on a peu de chance, si on va le voir en salle, de le voir autrement que comme un spectacle.
Ouais.
C'est-à-dire que forcément on va être avec des gens qui viennent et qui sont là aussi pour balancer les cuillères au bon moment, se lancer, donc il y a le ballon de foot, il y a les répliques qu'on dit à chaque fois qu'il y a San Francisco, je crois que aussi qu'on voit une image de San Francisco, les gens disent San Francisco.
Ouais.
Si je me souviens bien. Donc voilà, il y a tout ça. Donc c'est à la fois.
C'est comme une sorte de jeu à boire géant.
Sauf qu'on boit pas. Oui, voilà. C'est quand même des gens qui restent extrêmement sobres. Moi, j'aurais préféré hein, limite. Mais donc c'est là où je disais, pour le découvrir, c'est à la fois pas mal parce que ça nous permet de voir tous les détails du film très vite à la première vision et donc on rigole, etc. Après, je dis il y a quand même un petit effet club. de qui connaît mieux le film. Et moi, ça m'a toujours fait chier, en fait, pour être grossière. Il y a une espèce quand même de bataille gentille sur de très bon élève, de qui, tu vois. Et moi, le fait que quand même, quand on était allé voir la séance, il y a des gens qui ont engueulé d'autres personnes, puis ils n'avaient pas envoyé le ballon de foot au bon endroit, c'était un peu chiant.
J'avoue que moi, l'expérience me tenterait, mais parce que j'ai déjà vu le film, mais si je dois conseiller vraiment les gens qui ne connaissent pas ce film, regardez-le juste avec des amis à vous sur votre canapé. Et rigoler entre vous, quoi. Et regardez-vous dans le blanc des yeux en vous disant what the fuck à chaque fois qu'il y a une scène bizarre, c'est-à-dire pendant tout le film. Mais,
en fait,
mais
vous,
pour
si
le
vous
découvrir, c'est vrai que c'est
que
bizarre.
Vous savez pas quoi faire ce soir. C'est ça, en fait. C'est, tu t'es là, c'est un nouvel an, tu sais pas quoi faire. Bah, invite des amis, regarde The Room.
Cela dit, franchement, j'avoue que pour un réveillon de jour de l'an, avoir la télé allumée sur The Room en boucle, pendant que, tu sais, tu manges ton foie gras, tu écoutes de la musique, c'est pas mal, je trouve.
Ouais.
Je pense que c'est pas...
Avec un jeu à boire. Et là,
dès qu'on voit San Francisco, toi tu bois. Dès que quelqu'un dit Lisa, toi tu bois. Dès que quelqu'un dit que c'est mon meilleur ami.
Si t'as raté la cuillère, tu bois.
Je pense qu'il y a un moyen de s'amuser. Ouais.
Tu sais, il y en a un qui doit boire quand il voit des cuillères, l'autre quand il y a Lisa. Quoi. Tu vois,
vous pouvez clairement faire à votre sauce.
Non, mais c'est... Par contre, ne pas découvrir seul. À mon avis, si on doit mettre en garde des gens, c'est... ça se découvre pas forcément seul.
Pas parce que par risque psychiatrique, je pense.
How's work today?
Oh, pretty good. We got a new client, and the bank will make a lot of money.
What client?
I cannot tell you. It's confidential.
Oh, come on. Why not?
No, I can't. Anyway, how is your sex life?
Vous l'aurez compris, le film est extrêmement mauvais, même s'il est intéressant. Et donc, il faut y arriver avec un regard particulier quand même pour l'apprécier.
Oui, c'est vrai que bon, déjà, les gens qui ont l'habitude de voir des nanars, enfin l'habitude, qui savent les apprécier, vont plus facilement apprécier The Room, je pense. Après, si pour vous, un film malaisant, c'est difficile, ça va probablement être difficile de regarder The Room.
Je sais pas.
Faut essayer, en tout cas.
Ouais. Moi, je pense que c'est le film, faut essayer.
Ça
Faut pas hésiter à faire un petit panaché dans votre groupe d'amis que vous invitez pour regarder The Room, tu vois, et mettre un fan de Disney au milieu, tu vois, ça peut être intéressant aussi. Et tu vois, et ce côté, les chansons sont en entier, si vous le regardez avec les... Il y a pas mal de versions sur Internet où on a les paroles des chansons en même temps. Vous pouvez faire un petit karaoké. Voilà, il y a des expériences à tenter.
Il est sur YouTube ou pas, en entier?
Il y a beaucoup d'extraits sur YouTube, mais je sais pas s'il
est
en entier.
Ouais, on va pas...
Par contre, tapez Tommy Wiseau The Room, sinon vous.
Oui, surtout qu'il y a un film dernièrement The Room avec Brie Larson et tout ça, donc c'était pas.
Room, pas The Room.
Ouais, par contre, le DVD s'achète. Hein,
oui, ils ont même sorti en Blu-ray. Alors, dans le Blu-ray, il faut savoir, ils ont coupé les deux premiers logos de Wiseau Film. Parce que dans la version de DVD, il y a trois logos d'affilée qui sont différents, mais pour dire que c'est Wiseau Film quand même. Ouais. À chaque fois. C'est la preuve que le gars ne n'arrive pas à se décider et veut répéter des choses. Ouais.
C'est-à-dire que dans le livre, il parle de la société de production, donc Wiseau, où il fait tous les rôles et même il a pris des pseudonymes pour faire l'assistant. Quoi, vous voyez, pour faire croire qu'il y a des gens qui travaillent pour lui, il a inventé John, qui est l'assistant administratif, mais qui est lui en fait. Hein, il dit qu'il y a d'autres gens qui sont producteurs. Mais
et l'autre truc, et alors c'est dommage parce qu'ils l'ont enlevé maintenant, mais pendant, je crois, 10 ans, c'était devenu presque un monument de Los Angeles.
Ah
il
oui.
avait acheté 5 ans.
C'est 5 ans. Pendant la 5 fiche. Ans, et c'est 5 000 dollars par mois.
Il a acheté en fait un espace, un espace publicitaire
bouquin, en fait.
Gigantesque.
Ouais. 100 000 dollars par mois.
5 000, 5 000.
Ah putain,
non,
j'ai peur.
5 000.
Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est déjà énorme.
Le mec est milliardaire. C'est
quand même beaucoup.
Donc.
Bah, il l'est, mais non, 5000 dollars par mois pour c'était sur Sunset Boulevard ou je sais pas.
Oui. Et en fait, dessus il y avait parce qu'il tentait de faire en sorte que les cinémas prennent le film et il avait mis son numéro de téléphone dessus et il se faisait passer pour un assistant de Tommy Wiseau alors que c'est lui qui répondait pour essayer de vendre le film aux gens quoi. Et donc, la manière dont ce film est devenu culte, en fait, à la base, c'est un type qui est scénariste à Hollywood, qui était passé devant le seul cinéma qui passait The Room, et ils avaient passé The Room parce que Tommy Wiseau avait loué la salle pendant plusieurs semaines, si tu veux, parce que personne ne le voulait. Et en fait, il est allé voir ce film parce qu'il a vu un panneau qui était marqué sur la caisse, avec marqué « Nous précisons aux spectateurs que nous ne rembourserons pas les billets pour The Room ». Et donc...
Excellent.
Et donc, quand il a vu ça, il s'est dit, ben, je dois y aller, tu vois.
Oui, c'est sûr.
Et donc, il y est allé. Et il a expliqué qu'il était, il y avait lui et il y avait un couple derrière lui, que le couple est parti au bout de 10 minutes, que lui est resté jusqu'au bout assez fasciné, et il s'est dit, bon, ça, il faut que je le montre à mes potes, tu vois. Donc le lendemain, il est revenu avec deux de ses potes, et en fait, ils sont revenus comme ça plusieurs soirs de suite, à chaque fois en augmentant le nombre de personnes qui venaient.
Il a estimé avoir mis 1 000 $ en tickets. Il a dit qu'il faut absolument que le film continue.
Et ils ont manifesté devant le cinéma lors de la dernière projection pour dire non, le film il doit continuer à exister. Et le culte, ils ont continué à le projeter. Et le culte a commencé comme ça en fait.
Et ça s'est transmis notamment par quelques grands noms de la comédie aux États-Unis, notamment David Cross,
Kristen Bell.
Voilà, Kristen Bell. Ouais. David Cross qui est un mec qui joue dans Arrested Development. Et d'ailleurs, dans Arrested Development, la série, ils ont copié un truc génial qu'il y a dans ce film. C'est la façon très bizarre qu'a Tommy Wiseau de d'imiter une poule mouillée. Dès qu'il traite quelqu'un de poule mouillée, il fait chip 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 chip.
Et il le fait trois fois dans le film.
Il le fait trois fois dans le film. Même d'ailleurs dans la scène de baston, tu vois.
Ouais.
C'est incroyable. Et du coup, dans Arrested Development, ils ont décidé de décliner ça pour chaque personnage de la famille Bluth. Et c'est tellement drôle. Donc
et
voilà, au moins, on a ça.
D'ailleurs, il y a une petite anecdote aussi. C'est Juliette Daniel, donc l'actrice qui joue Lisa. Quand le film a eu du succès, elle a fait une dépression nerveuse. Parce que, en fait, elle était là. On se moque de moi. J'aurais jamais dû faire ça. C'était l'expérience la plus horrible de ma vie et tout ça. Et il paraît qu'un jour, elle a changé d'avis parce qu'elle a rencontré Michael Cera.
Ouais.
Michael Cera qui était fan, tu sais, du film, et il a dit ah mais
donc il joue dans Arrested Development.
Il joue dans Arrested Development et qui a fait ah mais t'es Lisa, et il y a elle qui disait ouais mais j'en ai un peu honte, j'en parle pas. Il paraît qu'il lui a dit ben bah, tu devrais pas, c'est la meilleure chose à faire à Los Angeles. Et à partir de là, elle a commencé à assumer, à aller voir les fans et ce genre de choses.
C'est clair, rentrer dans le cercle de la positivité.
Bah, quand même, il faut le dire, je pense que à aucun moment, quand même, sur ce projet, c'est des gens quand même qui ont mis, c'était quelque chose de touchant, c'est quand même des acteurs, et on sait à quel point c'est difficile d'avoir un rôle à Hollywood, même partout, pour des comédiens, c'est quand même des refus en permanence. Et donc là, oui, ils le prennent à cœur, et c'est ce que je disais, parfois sur le rôle, avec la mère, avec Denis, enfin, on sent quand même que c'est des acteurs qui essayent de tirer quelque chose de la scène. Il y en a où on sent qui font rien, le mec qui fait le psychanalyste, quoi, les deux d'ailleurs, ne font rien. Mais il y a des personnages comme ça qui, de temps en temps, et moi je le vois beaucoup avec Denis, avec la mère, ils essayent de tirer la scène, quoi. Ah, c'est quand même des comédiens qui font leur job et qui essayent de le faire, et malgré ce qu'ils ont entre les mains. Donc,
Mike, je suis désolé, mais c'est le ça, comme... voilà. Moi je retiens Mike.
Et Mike. Non, on a quand même ça, et je veux dire, finalement, c'est pas plus mauvais dans le texte que, à mon avis, des soap-opéras qui sont là depuis 45 ans, quoi, vous voyez, où les acteurs ont des oreillettes, parce que ça sert plus à rien d'apprendre le texte, en fait. Donc, ils sont là, ils font le job, quand même, ces gens-là, donc je pense qu'effectivement, ça doit être extrêmement violent quand le film, à la fin, sort, et moqué en disant c'est le plus mauvais truc au monde, et que t'as quand même mis un minimum, t'as voulu faire le job, et que t'as vraiment cru que c'était ton
premier. Après, je comprends aussi ceux qui ont abandonné, notamment, voilà, le psy, etc., parce que ça devait durer, enfin, en gros, 2 semaines, c'est ce qu'il leur a dit quand ils les avaient engagés, et ça s'est étalé, je crois, sur 6 mois.
Ouais, ça a été très très long. Il paraît que c'était devenu une blague entre techniciens à Los Angeles, parce qu'il a épuisé plusieurs équipes lumière, notamment. Et c'était une blague où vraiment il y avait ce tournage, et puis ils se racontaient des histoires où ils se faisaient taise. Je t'ai dit que j'ai fait 2 semaines sur The Room.
C'est un passage obligé, tu sais.
Ouais.
Mais non, mais je crois que c'est d'être un des rares jobs aussi payé. C'est-à-dire naze, mais payé. Parce que trouver des trucs nazes, il y en a plein. Vous allez sur cineas.org. Je sais plus comment c'est
cineas.org,
ce site, aussi avec plein d'annonces. Ouais. C'est cineas.org où vous avez des annonces un peu. Voilà, bah, ça doit être pareil. Il a dû aller sur Greg Lee, c'est quoi, aux États-Unis, l'équivalent, tu vois. Donc voilà. Mais eux, je pense qu'ils devaient être tous payés. Donc forcément, t'acceptes.
Et d'ailleurs, je pense que ce sera une grande partie de The Disaster Artist, parce que quand tu vois les noms des acteurs, qui sont tous des acteurs comiques, qui jouent les techniciens dans ce film. Déjà, Seth Rogen, je crois qu'il joue genre le
script. Hein.
Ouais, le script, etc. Mais il y a des gens comme Paul Scheer, Jason Mantzoukas et tout ça. Et ça fait partie des techniciens où tu dis, bon, bah, s'ils ont pris eux, c'est que c'est pour déconner, quoi.
Ouais.
Donc.
Mais pour moi, en fait, l'adaptation, tu vois, c'est vraiment, c'est comme s'ils avaient fait le Christmas épisode du SNL. J'ai l'impression que c'est ça, l'adaptation. Ça. Et j'aurais adoré le voir en Christmas épisode du SNL, ça aurait été la meilleure chose.
Mais en vrai, il y avait, génial. Tu vois, en plus, il y avait un vrai beau film à faire sur la relation entre Greg Sestero et Tommy Wiseau. Ouais. Genre, Paul Thomas Anderson aurait pu en faire un truc assez génial, tu vois. Mais vraiment.
Mais Je sais pas si je veux rentrer tout de suite dans un autant de drames, en fait. Dans autant de drames.
Non, non, moi je veux Harmonie. Non, mais Harmonie Corinne, je suis désolée. Il le réalise, ça peut être très beau. Je pense que c'est quelqu'un qui peut être touché par cette. C'est qui peut montrer des gens bizarres.
Parce que tu vois la différence, en fait, c'est un peu l'équivalent. Tim Burton a fait son meilleur film sur un type qui faisait des nanas aussi, c'était Ed Wood.
Ouais.
Et il y avait un tel amour pour Ed Wood dans le film qu'il a fait. En fait, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, et il a essayé de montrer Ed Wood pour ce qu'il était, un type sincère qui essayait sincèrement de s'exprimer à travers son art et qui n'y arrivait pas, quoi. Et c'est un film très très touchant, tu vois.
Aucun indice pour l'instant en termes de bande-annonce de savoir quel va être l'angle utilisé, si ce n'est l'angle moqueur.
Et d'ailleurs, il l'avait dit, c'est pourquoi il avait accepté de faire ce film Tim Burton. C'est, il faut rappeler que donc il a eu une relation avec un monstre sacré de la série B, Tim Burton, c'était Vincent Price. Donc son premier court métrage s'appelle Vincent et est un hommage à Vincent Price. Et après, Vincent Price a joué son dernier rôle chez Tim Burton avant de mourir dans Édouard Main d'Argent. Et donc Vincent Price, c'est lui qui jouait notamment Van Helsing dans les Dracula de la Hammer, tu sais, ou les trucs comme ça. Donc un type vraiment une légende de la série B. Et il avait été très proche de lui sur la fin de sa vie, parce que c'était un vrai fan de ce type. Il avait été très proche de ça et il avait dit j'ai voulu faire Ed Wood parce que la relation qu'il a entretenue avec Bela Lugosi m'a rappelé la relation que j'avais eue avec avec Vincent Price. Et donc c'était un film très très personnel, Ed Wood, tu vois. Et en fait, ouais, c'est vrai que Disaster Artist, j'ai l'impression que ce soit pas personnel, que ce soit une blague, en fait, sur c'est ça, en fait, la différence, tu vois.
Je pense que ça peut être une blague drôle, je leur reproche pas ça, mais je pense qu'effectivement, c'est dommage, on passe à côté de la possibilité d'un très beau film. Mais peut-être qu'il existera, d'ailleurs.
Oui, ça n'exclut pas l'existence.
Mais il y a un sujet. En tout cas, il y a un sujet autre que... on va filmer le making-of, on va recréer le making-of du film, et pour rire et prolonger un peu ce qu'on ressent...
Et puis, mine de rien, aussi faire connaître le film The Room, parce que...
Ouais. Ah, ouais, ça a explosé les projections et tout.
Parce que le film de James Franco a plutôt des bonnes critiques aux États-Unis. En tout cas, il a fait un bon circuit en festival. Il va être probablement aux Oscars. Donc,
j'imagine le plan où il y aura Tommy Wiseau aux Oscars.
Ouais,
parce que forcément, il sera invité.
Oui, mais vous voyez, tout le monde va chercher ce moment.
Non, mais moi,
en fait,
moi,
voyez,
moi j'espère qu'ils vont lui faire présenter un prix, même.
Oh,
tu sais,
ce serait tellement énorme.
Bah, je pense qu'avec les Oscars l'an dernier, il doit au moins donner le prix du meilleur film. Histoire de recréer un moment équivalent.
Ah oui, 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 c'est vrai, l'année dernière, La La Land.
La La Land. Oui,
oui. C'était rigolo.
Bon, ben, on espère que du coup vous allez regarder ce film. Et envoyez-nous des messages pour savoir.
Oui.
Prenez-vous en photo avec une cuillère en train de regarder The Room.
Ouais, oui, vous pouvez faire un concours photo. Ça
et
peut
vous
être
allez
sympa.
Gagner
moi,
le t-shirt d'Arnaud.
Exactement, et vous gagnez le t-shirt d'Arnaud qui ne lavera pas. Ce qu'il faut, vous voyez.
Ça, ils pourront te cloner. Chut, chut, chut.
Donc,
et on en verra ça.
Bien sûr qu'on le laisse. Et donc voilà, faites un concours. Vous, sur Twitter, Instagram, fin de séance, vous envoyez vos meilleures photos de visionnage de The Room. Et,
voilà, vous mettez hashtag paye ta cuillère.
Exactement, et donc la photo qui aura reçu le plus de likes ou de retweets, au choix, on enverra le t-shirt
du coup,
d'Arnaud.
Je vais le prendre en photo directement avec son t-shirt, comme ça, avec le micro.
Lève-toi Arnaud, montre les doubles manches.
Voilà.
Ah, c'est laid.
Parfait. Et je vais tweeter déjà dès maintenant, et les gens comprendront dès demain quand l'épisode sortira. Voilà. Bon, bah, j'espère qu'on vous aura donné envie de regarder The Room, hein, tout simplement. Et on vous souhaite un joyeux nouvel an, bonne année, bonne résolution, bonne fin, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre à...
Attendez, il n'y a personne qui a dit la phrase que tout le monde doit dire normalement. À l'année prochaine.
À l'année prochaine, Alice.
À l'année prochaine.
Bonsoir.
Bisous.
Oh,
bye,
hi. Bisous à tous.